L'Instant Conte, des histoires chaque semaine sur Radio Saint-Aff.
L'Instant Conte, des histoires chaque semaine sur Radio Saint-Aff.
C'est le conte, c'est le conte, c'est le conte. C'est le conte, c'est le conte, c'est le conte.
Bonjour, cette semaine, le Korrigan et l'ermite. Engourdi et désœuvré tel un ermite dans sa grotte, j'avais la mort dans l'âme, j'errais inlassablement dans cet obscur univers depuis 3 jours. Ni lavé, ni même coiffé, la vaisselle s'entassait dans la cuisine et les cafards colonisaient la pièce pour se ravitailler. Soudain, une douce mélodie me fit sursauter et me rappela à la vie de notre si cher 21e siècle. On fêtait l'anniversaire de un ami de longue date et j'étais fatiguement convié. Décidé à m'arracher à mon isolement néantique, les voix étaient joyeuses à l'autre bout du fil. Après de titanesques efforts, je réussis enfin à me lever. La préparation fut longue et douloureuse. Le vide ne s'efface pas si facilement. En sortant, une légère bruine me gifla le visage. Dans l'expédition urbaine des transports en commun, je croisais le regard d'une nymphe, tandis que je prenais place dans ces lieux féeriques. Observer les citadins se changer en automates et paraître tels des marionnettes me donna le sourire. J'arrivais enfin sur les lieux des festivités et de folles vapeurs m'accueillirent. Après moult salamèques d'usage, m'intégrant à cette communauté si particulière pour mes yeux vieillis, je m'assis et crus un instant être le spectateur de quelque mauvaise série américaine, avant de tomber en véritable léthargie. Une douce créature vint me trouver agacée et égarée, elle semblait elle aussi vouloir fuir cette Babylone. Nous sortîmes et marchâmes longuement, croisant çà et là des musiciens, des saltimbanques et quelques chats errants sur les avenues tumultueuses. Nous rîmes beaucoup, l'atmosphère était magique et m'envahissait d'une légèreté peu commune à mon être. Mais bientôt, une escale s'imposa. Une fois attablé, un silence de mort fit place à nos pensées, dans lesquelles chacun de nous se perdit. D'un regard caché, j'essayais d'attraper au vol les siennes, mais elle s'évanouit au fond de mon verre de vin. Je me pris soudain à marcher vers l'étang gelé là-bas. Il faisait si froid, je retournais les pans de ma veste comme si je feins d'ignorer ce qui venait de se passer. Je me mis à imaginer un couple de patineurs sur cette étendue immaculée. Un petit blond aux yeux comme le fond de cet étang apparut. « L'étang n'est pas gelé, me dit-il, ce n'est que le reflet de vos songes. Mes parents ayant tant de peine d'avoir perdu leur deuxième enfant, s'en sont approchés, attirés comme par un aimant et finirent par se noyer. » Puis, il me fit signe de regarder un pré un peu plus loin, inondé de soleil, et il disparut. Me dirigeant vers cette étendue verte, admirant la nature, les pupilles fixées sur le ciel, j'aperçus un nuage blond. Je voulus le suivre, mais la technologie me rappela une fois encore à d'autres occupations. Après avoir traversé la jungle urbaine, je rejoignais des amis au cinéma. Nous discutions de 1000 choses inintéressantes quand la séance commença. Et voilà que mon petit bonhomme me réapparaît à l'écran. On aurait dit un Korrigan. Et il me fit découvrir des images qui dataient de bien avant la naissance des frères Lumière. Il semblait vouloir me dire quelque chose. Je voyais ses lèvres bouger, mais je n'entendais rien, comme si j'étais devenu sourd. Moi qui étais venu voir un mauvais polar, je restais bouche bée. En sortant, je m'éclipsais, prétextant des courses à faire, mais le fait est que tout cela commençait à me travailler du cogitarium. Je ne savais plus ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Je pris un de ces si bons sandwichs que l'on nous vend à tous les coins de rue. Non, pas un de ces affreux Big Mac. Un kebab. Puis je regagnais mes pénates. Plusieurs années étaient passées et tout était revenu à la normale. Plus un seul souvenir de ces aventures ne me hantait. J'avais une belle petite vie bien réglée, une machine bien huilée. En bon citadin, j'avais assimilé ma vie tridimensionnelle. Métro, boulot, dodo. Babylone m'avait englouti dans la masse comme tant d'autres. Et Sandra et moi préparions notre mariage. Je n'aurais jamais cru que cela puisse m'arriver un jour. Et il fallait régler chaque petit détail, que tout soit irréprochable. C'était important pour elle et je l'aimais. Il fallait la voir s'agiter en tous sens, écrire la liste des invités, puis non. Cousin un tel et tati machin s'étaient disputés il y a 3 ans, il fallait donc d'abord les réconcilier. Puis, elle réfléchissait au menu du jour fatidique. Pour cela, l'agacer et elle prenait un catalogue pour choisir sa robe. Il fallait vraiment voir mon amour qui, pour un temps, se changeait en tornade et virevoltait en tous sens dans notre petit nid. Bref, tout cela finit par me rendre songeur, surtout le soir du nouvel an. Et je me demandais vraiment pourquoi m'être lancé dans cette entreprise. Je méditais tout cela, assis sur un banc, et il finit par me réapparaître. Moi, le temps et ma vie fastidieuse m'avaient donné des rides et quelques cheveux blancs, mais lui n'avait changé en rien. Il s'assit à mes côtés et se mit à me raconter son histoire. Je suis né en l'an de grâce 1663 dans la bonne ville de Rennes. En ce temps-là, ma famille était parmi les plus aisées de la région. Mais voilà qu'un jour, notre bon roi Soleil, n'admettant pas que la Bretagne ait réussi à acquérir des statuts spéciaux lors des différents mariages royaux qui rallièrent le royaume de Bretagne au royaume de France, décida avec les siens de rétablir les taxes sur le papier timbré, le tabac, le sel. Le bon peuple breton sentit alors qu'on lui mettait un couteau sous la gorge et qu'on désavouait ses droits, et il dut se révolter. La Bretagne connut alors l'une des sombres parties de son histoire avec la révolte des Harbonnets d'Oureuse, bonnets rouges. Les dragons de Colbert écrasèrent cette insurrection dans le feu et le sang. Bien des familles se retrouvèrent destituées de leurs biens, sans hommes à la maison pour remplir les assiettes. Mais certains d'entre nous surent tirer leur bille du jeu. Mon père fit partie de cela. Possédant de nombreuses terres dans la région rennaise et étant également juge, celui-ci avait tous les atouts pour collaborer, voire plus pour aider directement à l'anéantissement de la révolte. Moi, du haut de mes 12 ans, j'entendis certains soirs des discussions qui me conduisirent à tout comprendre de la situation de mon pays. Ayant beaucoup couru dans ces campagnes bretonnes, je les aimais et refusais au tréfonds de mon être qu'elles fussent mises à feu et à sang. Je me décidais donc à récupérer un maximum d'informations intéressantes pour les insurgés. Je savais être ainsi en travers de la route de mon père et aller même à l'inverse de ses intérêts et donc de ceux de ma famille. Mais je ne pus faire différemment. Tout mon être se soulevait. Mais de loin en loin, j'étais amené à visiter la campagne, bien trop souvent pour déverser mon flot d'informations aux insoumis. Et mon père se posa des questions sur mes escapades. Je ne crois pas qu'il s'inquiéta de mes réels agissements, mais le jour où il décida de me faire suivre pour en savoir plus, il fut bien surpris de mes manigances. Il prit la décision de m'enfermer jusqu'à ce que la situation soit réglée, protégeant ainsi son fils et ses intérêts. Mais c'était sans compter sur mon agilité naturelle. Je parvins à escalader un pan de mur qui surplombait ma fenêtre et à m'échapper par les toits. Je dormis ce soir-là dans les bois, et le lendemain, remettant mes idées au clair, je pris la décision de renier ma famille et de prendre part à la révolte pour de bon. Une semaine plus tard, je fus tué près de l'étang où nous nous sommes rencontrés. Mon père fut rapidement prévenu de ce malheur, et vint jusque-là pour y trouver mon corps inerte et froid. C'est alors que le petit peuple, qui a une vision assez personnelle de la justice, décida lui aussi de tirer ses billes du jeu en jouant un de leurs mauvais tours à mes parents. Ils vinrent revoir mon âme en perdition et me proposèrent un marché. J'aidai à entraîner mes parents vers la faucheuse, envers qui ils avaient une dette, et je devenais un des leurs pour l'éternité. Le pacte fut conclu. À ce moment-là, avant même que mon aspect physique fût changé, j'eus une idée assez perfide pour être Corrigan. C'était celle de l'étang gelé, qui malheureusement est depuis ce temps-là hantée pour ceux qui s'en approchent, ayant la mort dans l'âme. Mes parents finirent donc noyés, et moi je me changeais en Corrigan. Je fus surpris par toute cette histoire, et je me demandais vraiment pour quelle raison ce personnage si singulier venait de me la raconter. Je dus laisser s'échapper ces 2 ou 3 mots. « Mais pourquoi m'as-tu sauvé ce jour-là, il y a 15 ans ?»« Puis aujourd'hui tu reviens au milieu de nulle part sur un banc et tu me racontes toute ton histoire. » Toutes les questions que je m'étais posées pendant la longueur qu'avait duré son récit étaient sorties. L'enchantement du lac était pour mes parents, me dit-il. J'essaie donc de sauver de l'envoûtement ceux à qui il n'était pas réservé. Sinon, il faut que je te dise, cela fait longtemps que je suis devenu ce petit être sorti d'une forêt bretonne que tu as croisé dans tant de livres. Et toutes les raisons qui ont fait que d'un petit garçon de 12 ans, je fus transformé en Corrigan, je n'ai jamais cessé de lutter depuis pour elles. Dès qu'il me semble qu'il y a une injustice, je vais sur la barricade. J'ai été de toutes les révoltes dont la cause me semblait juste. Mais je dois t'avouer qu'en 337 ans, à force de voir des révolutions passer et qu'au final rien n'avance réellement, les hommes n'essaient pas de vivre tous ensemble. Non, ils se fabriquent tous de belles petites barrières, se regroupent en meutes de toutes sortes. Au lieu d'essayer réellement de vivre tous, je dirais pas ensemble, je sais que chez l'être humain il y a bien des caractères différents, mais vivre dans un même groupe, je ne préconise pas le vieux système des soviets, non, un monde où chacun en tant qu'être accepterait de concéder un peu de son temps ou d'argent, ou juste être une oreille à l'écoute. Tout simplement donner un petit quelque chose qu'il a en grande quantité à une personne qui en a besoin. Mais je ne sais pas si cela arrivera un jour, je continue donc à lutter. Et quand je t'ai vu la première fois, j'ai senti dans ton regard la même flamme qui m'a animé au départ. Et ce soir, j'ai vu que c'était toujours elle qui te dirigeait sans que tu le saches. Je suis donc venu te proposer un marché. Comme je commence à m'engourdir les jambes sur le vieux continent, et que malheureusement mon aspect physique ne me permet pas d'acheter un billet d'avion, nous pourrions en prendre un pour le Mexique. Tu m'arranges dans une de tes valises, et voilà, le tour est joué. Et ainsi, nous pourrions aller voir de plus près les zapatistes au Chiapas. J'ai envie de me relancer dans la lutte, et je pense que ça pourrait t'aider à répondre aux questions que tu te poses. Nous avons pris l'avion 2 jours plus tard. Et au moment où j'écris, nous sommes à San Cristobal de las Casas, en train d'attendre une camionnette pour nous rendre à Oventic. San Cristobal de las Casas, 3 janvier 2000.
Pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate? Está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate? Que está tranquilo en la mata. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
Et voilà, mais c'était la musique, c'était Quilapayún avec Que la tortilla se vuelva. Et l'histoire, c'était le Korrigan et l'ermite de moi-même, voilà, que j'ai écrit il y a une 15aine d'années. Et voilà, mais je vous souhaite une bonne fin, une bonne suite de journée, et à l'écoute de Radio Sainte-Afrique.